Ce qui suivra bientôt sera une reconstitution d'événements passés il y a plus de 4040 ans et même au-delà. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afrique contre-attaque. Vie, durée et santé à tous. Surtout en ces temps d'incertitude, le coronavirus, le confinement, il est donc important que nous puissions soigner notre attitude mentale, sinon on va craquer. Hein? Donc je vous invite à vous relaxer, à écouter la belle histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, je suivais une émission sur YouTube et je voyais un rapport écrit par la CIA qui parlait des prévisions sur 2035. Un livre apparemment officiel de la CIA qui, selon les commentateurs, les animateurs de l'émission que je suivais, la CIA avait ce rapport, je crois, tous les 4 ans, où il faisait une sorte de prévision sur les 10 prochaines années ou plus encore. Donc 2035 était leur prévision de comment sera le monde, comment il sera organisé. Et je crois même que dans les réseaux sociaux, beaucoup de pages de ce document ont eu à voyager. Et si je ne m'abuse, si je ne me trompe, on parlait de pandémie aussi. En tout cas, dans l'émission qui a été couverte, on parlait beaucoup plus de ce qui se passerait sur le plan géopolitique, de l'influence de la Chine, de la politique américaine par exemple, de la montée de l'extrême droite, de l'économie, de l'ubérisation du marché du travail, des phénomènes que l'on retrouve effectivement dans la vie quotidienne, car l'ouvrage est sorti déjà depuis un certain nombre de temps. Et on se rend compte que bien que l'ouvrage ne joue pas à Nostradamus, mais il y a quand même certains points sur lesquels ils ont touché juste. Et cela nous rappelle cette vieille citation où l'on dit que la meilleure façon ou manière de prévoir l'avenir, c'est d'étudier le passé. Voilà pourquoi on s'est posé cette question. Nous sommes en 2020 et puisque nous savons que les choses sont cycliques, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où en était l'Afrique en 2020 avant Jésus-Christ? Car je rappelle que la courbe du temps, elle est similaire à l'ensemble Z des mathématiques. C'est-à-dire vous avez le côté positif après 0 et vous avez le négatif avant 0. Donc, nous allons du plus grand au plus petit dans les négatifs et à partir de l'an 0, que l'on prend comme référence à la naissance du Christ, on prend le positif, ça devient positif. Donc, on a par exemple moins 2500 avant Jésus-Christ et après on a par exemple 2020 maintenant, donc négatif, positif. Donc c'est juste une sorte de manière de remettre un peu la ligne du temps dans notre esprit. Ainsi, lorsque nous disons 4040 ans, nous considérons que nous sommes en 2020, donc moins 2020 ça donne l'an 0, et quand on soustrait encore 2020 à 0, ça donne moins 2020. Donc 4040 ans à partir d'aujourd'hui, c'était moins 2020 avant Jésus-Christ. Si mes mathématiques sont encore bonnes, c'est à peu près ça. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, en moins 2020 avant Jésus-Christ, comment était le monde? Comment était l'Afrique? C'est une question que nous nous posons aujourd'hui. Et cela va nous aider à pouvoir voir un monde différent, car nous l'avons dit, parfois pour prévoir l'avenir, il est important de regarder le passé, car l'histoire a un algorithme et lorsqu'on sait le décoder, cela nous permet de pouvoir prévoir des choses. Je l'ai déjà raconté une fois, je pense, qu'il y a un magasin, un Target, qui avait créé une application, ou du moins un programme informatique, qui permettait de prévoir si une femme était enceinte avant même qu'elle le sache. Parce que les gens pourraient se dire, oh, mais c'est mystérieux ça. C'est tout simplement des mathématiques et du codage informatique. Car quand une femme est enceinte, il y a des dépenses qu'elle fait, il y a des produits qu'elle consomme. Donc dans les premiers mois ou les premières semaines, il y a des automatismes qui s'opèrent. Donc il y a des produits qui sont achetés. Et il suffisait simplement de coder l'application, le programme dans les caisses enregistreuses des machines, des supermarchés, pour savoir quand tel consommateur achète tel produit dans tel intervalle de temps, eh bien, il y a une probabilité de plus de 70% que cette personne soit enceinte. C'est tout simplement des mathématiques et du codage informatique très simple. Et c'est ainsi que des personnes pouvaient recevoir dans un laps de temps très court des publicités à la maison, car le programme afficher au marketeur que cette personne est sûrement enceinte car elle a acheté XYZ produit. Donc c'est le moment de lui envoyer des publicités à la maison, dans son mail, pour lui dire qu'elle peut acheter tel biberon, elle peut acheter telle poussette, elle peut acheter tel produit. Donc c'est tout simplement des mathématiques. En enregistrant les habitudes des personnes, on peut prévoir leur futur comportement. C'est aussi simple que ça. Ainsi, comment était le monde en 2020 avant Jésus-Christ? Comment était l'Afrique? Où en était l'Afrique? Eh bien, elle sortait à peine d'une grande guerre, d'une période de conflit, d'une période de famine, d'une période de changement climatique et écologique. Et elle s'en est sortie plutôt grandie. Ainsi, nous devons avoir un message positif pour l'Afrique, pour l'avenir, de sorte que dans le rapport de 2035, par exemple, on disait que l'Afrique aurait une croissance plutôt supérieure à celle de l'Asie. Et ensuite, on disait aussi que la population mondiale irait en se stabilisant plutôt, alors que on nous prévient que l'avenir sera fait d'une surpopulation africaine et mondiale qui fait qu'il faudra absolument mettre en place des mécanismes pour contrôler cette population. Et je crois que tout le monde sait de qui et de quoi je parle, car dernièrement, beaucoup d'éléments ont circulé sur des chefs politiques, très souvent de l'Occident, qui ont à plusieurs reprises dans des émissions, et cela tourne en boucle dans les réseaux sociaux, je n'ai pas envie d'ajouter mon eau au moulin de la polémique ou des complotistes ou des théories du complot, mais il y a des images que l'on ne peut effacer, que l'on ne peut nier, qui démontrent, qui au moins présentent ces leaders-là comme prenant une position assez très inquiétante sur le devenir de la planète et très souvent et surtout de l'Afrique, car par exemple un président français qui disait que ce qui est très inquiétant, ou Nicolas Sarkozy pour le citer, disait que l'Afrique, plus précisément le Nigeria, a une population qui est inquiétante. Pourquoi? Parce que en 2050 du moins, ils auraient une population qui serait supérieure à plus de 400 millions, et il s'offusquait dans le fait que cette population serait supérieure à celle des États-Unis. Et il l'a dit dans plusieurs émissions, pas simplement une, mais au moins dans deux, où il prenait précisément l'exemple du Nigeria. Et il se réfugiait dans l'argument que le nombre excédentaire ou superflu ou exagéré de Nigériens sur cette planète, ou du moins en Afrique, serait un danger pour les côtes européennes, car l'immigration viendrait massivement de ces contrées-là. Ce qui est assez étrange, bien que le monsieur citait aussi la Chine et l'Inde, qui avaient une population aussi galopante, car ils sont déjà au milliard, hein, mais il avait une attitude beaucoup plus agressive envers le Nigeria, car pour lui, il voit dans le Nigeria la crise migratoire, car l'Inde et la Chine ne se déversent pas autant en Europe en tant que quémandeurs, mais plutôt en tant que conquérants dans les entreprises qu'ils créent, dans les participations de marché qu'ils ont. Par contre, l'Afrique, c'est plus une attitude de main tendue, une attitude d'immigrant, une attitude d'assister, et cela l'inquiète. Voilà pourquoi il parlait de ce sujet. Il partageait son inquiétude sur les flux migratoires futurs de l'Afrique dû à leur nombre excédent ici-bas sur la Terre. Ce qui est assez étrange, vu le fait que un autre président français encore, je crois Macron, disait que le problème de l'Afrique était aussi, entre guillemets, civilisationnel, ce qui ressemble un peu à ce que Sarkozy disait à Dakar à l'époque, en disant que voilà, le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants faisait que la prospérité ne pourrait pas y être établie. Deux attitudes que nous analysons ici, froidement, très très froidement, en disant que ce n'est pas du tout correct, dans le sens où par rapport aux enfants, nous avons par exemple la Chine et l'Inde, qui il y a 50 ans étaient considérés comme des pays très pauvres et même, allant peut-être même droit au mur, mais qui ont su se relever, qui, grâce à leur population, ont pu avoir de la main-d'œuvre pour travailler dans leurs champs, dans leurs plantations et avoir ce capital humain. Car, comme disait Bodim, il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes, surtout, car la femme est la matrice, la femme est celle qui donne la vie. Hein? Donc, il n'y a de richesse que d'êtres humains. Et ce sont ces humains-là, ces humaines qui créent la richesse, qui créent les intelligences, qui inventent, qui nous donnent les concepts, qui mettent les sociétés en action. Et dans le cas de la Chine et de l'Inde, ce sont les hommes, ce sont les femmes, ce sont les fils, ce sont les filles de ces pays-là qui ont su apporter le développement. En Chine, on a eu un Mao, on a eu un Deng Xiaoping. En Inde, on a eu un Gandhi, on a eu un Nehru. Ces personnes, ces personnalités, les Sonia Gandhi et consorts, sont des personnes qui ont apporté des choses dans le développement de leur nation. Revenons dans le cas du Nigeria. Le Nigeria est un pays qui est pointé du doigt. Alors que le Nigeria a à son actif au moins 3 ou 4 milliardaires dans le classement Forbes. Le Nigeria est la première économie d'Afrique. Le Nigeria est le pays qui produit le plus d'œuvres cinématographiques au monde. Le Nigeria a une économie qui est en très bonne santé, ou du moins qui avance. Les problèmes ne manquent pas. Par rapport à des conflits, on dirait, entre chrétiens et musulmans, ethniques et j'en passe, des enlèvements. Qui n'a pas ce genre de problème dans son pays. Mais le Nigeria est le fer de lance de l'économie. Alors, il est intéressant de trouver qu'il y a des leaders qui pointent du doigt ce pays, qui a, je le répète, 4 milliardaires, dont Aliko Dangote en tête, je pense, et qui a un capital humain qui sera extrêmement fort demain, qui a une économie très dynamique. Il est intéressant que l'on pointe du doigt ce pays comme, apparemment, d'où viendrait le danger. Pourquoi ne pas avoir une attitude selon laquelle on dira le Nigeria va doubler sa population peut-être? Elle a une économie très forte, elle a des potentialités, elle a un sol, cette nation a un sol fertile, elle a du pétrole, elle a des ressources, elle a une œuvre cinématographique extraordinaire. Pourquoi la France, par exemple, nous rêvons ici, évidemment, je vous rappelle, je vous rassure, nous rêvons. Nous rêvons donc. Pourquoi la France ne dirait pas, oh voilà, nous avons une industrie du cinéma aussi développé. Pourquoi ne créerons-nous pas les moyens qui feraient que ces Nigérians qui deviendront plus puissants demain ou qui peuvent être une menace migratoire pour nous, pourquoi ne pas aider les populations à rester sur place? Car le pays est vaste, la population aussi va croître, mais pourquoi ne pas rendre ce pays attractif afin que ces gens restent chez eux? De un, et de deux, pourquoi ne pas créer encore ou aider ou les aider ou travailler en partenariat? Car le mot aider, je ne l'aime pas trop. Je dis nous rêvons ici. Hein? Bien que c'est ce mot qui serait plutôt utilisé, les aider au lieu de créer un partenariat. Pourquoi ne pas travailler avec eux pour avoir aussi des usines là-bas afin que la Chine, qui est pour nous une menace, là je m'exprime comme un Nicolas Sarkozy ou un Français, en disant voilà la Chine qui est une menace pour nous, car on se rend bien compte que les États européens se sont réveillés brutalement à la dure réalité qu'ils ne savaient même pas faire des masques, qu'ils avaient tout délocalisé en Chine par la magie du capitalisme, car comme je l'ai dit l'autre fois, il y en a qui sont du chevalier ou des chevaliers du capitalisme à bas prix, hein, couper les coûts, et on va tout délocaliser en Chine, on va vendre à bas prix, on se fait du pognon, on met tout dans les paradis fiscaux, on ne paye pas d'impôts, et voilà, on apparaît chez Forbes, et on est le héros et le sauveur de l'humanité. Ça prouve que le système a ses tares, et voilà pourquoi le système va vers se casser la figure. Ça s'est passé avec la crise financière de 2008, et on y va encore droit dans le mur avec le coronavirus. Donc, pourquoi ces pays ne se diraient pas, oh voilà, la Chine, qui apparemment maintenant tire son épingle du jeu en ayant racheté beaucoup d'actions de compagnies occidentales, car ayant eu la panique et la frousse en voyant ce qui se passait en Chine, ont vendu leurs actions, les Chinois ont racheté à bas prix, à moindre coût, pour une bouchée de pain, et maintenant les Chinois se retrouvent en possession de beaucoup plus de capitaux, de beaucoup plus de capital, de beaucoup plus de ressources, de stock options, et ils se retrouvent apparemment grandis de la crise du coronavirus, même si les chiffres sont masqués et qu'ils veulent donner une image qui s'en sort beaucoup plus que ce qui est de la réalité, on se rend compte que la Chine tire son épingle du jeu dans ce discours-là. Je veux pas explorer ici la théorie du complot selon laquelle ils auraient créé le virus ou ceci, cela. Moi, nous n'aborderons pas ce sujet-là, nous n'en savons rien. Mais nous voyons que dans la crise, apparemment, la Chine tire son épingle du jeu, je le répète, car c'est elle qui exporte les masques, c'est elle qui va à la rescousse de beaucoup de pays qui sont aujourd'hui en panne. Et elle est réellement le big boss actuellement. Alors, pourquoi les pays occidentaux ne se diraient pas, voilà, la Chine devient un géant, une sorte de pieuvre qui va tous nous engloutir sur son passage. Pourquoi ne pas aussi diversifier nos économies avec d'autres pays, d'autres marchés, afin que nous ne soyons pas à 100% dépendants de la Chine. Comme ça, apparemment, s'il y avait un problème dans nos industries qui sont implantées en Chine, s'il y avait encore une sorte de pandémie qui se passait là-bas, si c'était réellement un coup de la Chine pour déstabiliser les économies occidentales, même si elle se faisait harakiri par le même moment, même si elle se tirait une balle dans le pied, même si elle souffrait de cette pandémie là, je suis vraiment dans le ciel peut-être. Hein, je suis vraiment dans le ciel peut-être. Si c'est vraiment elle qui avait fait ça, pourquoi alors ne pas diversifier nos économies, nos industries en les implantant ailleurs, en Afrique par exemple, au cas où il y a un problème en Chine, on a d'autres partenaires économiques avec l'Afrique par exemple, des pays africains comme le Nigeria. Non simplement, ils vont embaucher des gens, ils vont rester chez eux, mais on a notre partenaire économique à qui on va payer, soyons honnêtes, hein, des bas prix, et ils vont nous produire ce dont on a besoin. Pour ici, par exemple, je prends le cas de l'Éthiopie. Je ne vais pas défendre, mais soyons réalistes, c'est l'économie capitaliste. Je regarde froidement ce qui se passe, je critiquerai peut-être plus tard, mais certaines entreprises chinoises, par exemple, sont en train d'engager énormément d'Éthiopiens, car en Chine, beaucoup aussi cherchent de meilleurs salaires. La Chine, donc, a des entreprises au niveau de l'Éthiopie, et je pense même d'autres pays aussi, et qui payent, d'après ce que mes renseignements, $27 par mois. Ce qui est ridicule, $27 par mois à des Éthiopiens pour faire des produits, des habits, ou des chaussures, en tout cas des habits. Au niveau de l'Éthiopie, un salaire dérisoire, peut-être même pire qu'en Chine. Donc voilà des pays qui sont en train de diversifier, qui ne veulent plus simplement voir leurs industries en Chine, mais qui les mettent aussi, les implantent par exemple en Éthiopie, en Afrique, pour avoir des salaires toujours bas et maintenir l'illusion de la création de richesses du capitalisme, alors qu'on sait que c'est basé aussi sur l'exploitation, soyons honnêtes. Alors pourquoi ne pas avoir aussi ce regard sur la Chine, sur les Nigériens par exemple, comme en Éthiopie? Eh bien, mettons, travaillons avec les Nigériens, hein, là du point de vue français par exemple, travaillons avec les Nigériens ou Nigeria. Aidons-les à avoir des industries aussi pour qui embaucheront des industries françaises qui embaucheront des Nigériens. Comme ça, ils ne viendront pas chez nous, ils resteront chez eux. Et ensuite, on a aussi des pays à des produits à bas coût venant du Nigeria. Et on délocalise aussi au niveau de l'Afrique et non plus de la Chine. Comme ça, on n'est plus dépendant de... Tout le monde est gagnant, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est ce discours incendiaire, ce discours paternaliste, ce discours méprisant, pointant le doigt du Nigeria et sa population galopante? Bien qu'on cite la Chine et l'Inde, disons qu'ils ont aussi une population galopante, mais il y a un certain respect. Mais avec l'Afrique, c'est méprisant. C'est plutôt, et je cite, figurez-vous que le Nigeria aura une population supérieure à celle des États-Unis. Et c'est une abomination apparemment, dans le ton du moins que l'on perçoit le discours. C'est une abomination apparemment que le Nigeria ait une population supérieure à ceux des États-Unis. Et on se cache derrière, oh mais la crise migratoire arrive, cela va alors expliquer une forte crise migratoire, alors que le Nigeria, je ne dis pas qu'il n'y a pas des migrants ou de migrants nigériens, sûrement il y en a. Il y a beaucoup de pauvreté aussi au Nigeria, tout comme il y en a aux États-Unis, tout comme il y en a en France, tout comme il y en a en Chine et partout dans le monde. Mais pourquoi ne pas créer des partenariats avec le Nigeria? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la France a une industrie cinématographique quand même établie. Pourquoi ne pas délocaliser le festival de Cannes, par exemple, ou en créer un autre, par exemple, au niveau du Nigeria, pour que leur cinéma puisse absorber ce qui se passe au pays, pour que le glamour nigéria puisse aussi intéresser les plus jeunes Nigériens, afin de les motiver à vouloir rejoindre cette industrie dans leur pays et d'arrêter de voir l'Occident comme le ciel qu'il faut atteindre. Pourquoi ne pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer des usines qui vont retenir les gens là-bas? Pourquoi ne pas créer des universités, des chaires d'universités, comme la Sorbonne et autres universités au niveau du Nigeria? Pour aussi, à leur intérêt, hein, participer à l'éclosion de la culture francophone au niveau du Nigeria, parce qu'on sait que c'est un pays anglophone. Pourquoi ne pas créer des chaires là-bas, comme on sait qu'il y a par exemple les universités comme Harvard ou je pense Stanford ou d'autres, le musée du Louvre, je pense. Il y a des universités et des musées occidentaux qui ont ouvert des, je sais pas si je dois dire succursales ou des branches au niveau du Moyen-Orient par exemple. Pourquoi ne pas créer ces branches-là pour encourager ces jeunes-là à rester chez eux, tout en créant aussi une coopération gagnant-gagnant ou gagnante-gagnante. On voit que ces idées-là n'ont pas été divulguées durant ces deux émissions-là qui font le tour sur la toile à présent. C'est au contraire alimenter toutes les théories du complot sur la fameuse éradication des populations africaines à travers un vaccin. Vérité, mensonge, réalité, intox, je ne sais pas, nous n'en parlerons pas ici, mais du moins, c'est les sujets actuels dont tout le monde parle. Je ne vais pas être naïf, rassurez-vous, mais je vais présenter certains faits. Nous pouvons donc voir que ce discours incendiaire, s'il faut le dire, ou méprisant, et je ne reprendrai pas ce que les deux médecins français avaient dit à propos des tests sur les Africains. Nous voyons donc un certain mépris sur l'Afrique, et quand même elle a des avantages, quand même elle a des opportunités, des forces, on ne les regarde pas, on la voit simplement comme une menace à abattre et non pas une nation avec qui, en tout cas les nations africaines ou un continent avec qui il faut travailler, à tel point qu'il y en a qui disent que l'Afrique c'est un petit continent alors que l'on sait très bien que les cartes que nous avons sont des cartes falsifiées. Qu'en termes de géographie, l'Afrique est beaucoup plus grande que celle que nous montre. Toutes les cartes que nous voyons, celles des projections de Mercator sont fausses. Ce sont des cartes qui sont fausses. Les vraies projections sont beaucoup plus, je dirais même dynamiques et beaucoup plus grandes que celles-là. Donc les cartes que nous voyons chaque jour sur Google et consorts, partout où vous voyez des cartes, elles sont fausses. Elles vous donnent une mauvaise représentation du globe terrestre, d'autant plus que on sait que l'Afrique est plutôt au nord et le reste au sud, et que le globe est plutôt inversé. Mais on nous montre une autre image du globe, car une émission qui passe aussi dans une chaîne française et qui tourne dans les réseaux, qui disait que les cartes sont obligatoirement fausses parce que la Terre est un globe. Alors quand on tourne un globe en une carte, en une Terre plate, il y a forcément des manipulations. Car le globe, il est retourner sur lui-même. C'est un peu comme si vous prenez une orange et que vous enleviez la peau et que vous essayez de rendre cette peau plate. Cette projection est forcément erronée, il y aura des erreurs. Donc le monde étant forcément un globe tel qu'il est, quand on veut faire cette projection-là plate, il y a forcément des erreurs et il y a eu, et preuve à l'appui, nous le savons maintenant, des manipulations pour rétrécir l'Afrique afin que les autres soient vus beaucoup plus grandement. Donc nous devons arrêter avec la projection Mercator et nous devons avoir la projection, je ne sais pas moi, le nom que nous voulons, je crois que le lapsus même dit tout, car la science se vole, la science s'arrache, il faut la voler des mains ou la récupérer des mains de ceux qui l'ont pris, donc il faut voler très haut, avec des ailes de l'intelligence, près du soleil. Donc il faut une autre projection, qui n'est pas celle de Mercator. Nous devons arrêter de nous voir avec le prisme de Mercator, avec le prisme de Hérodote, le prisme d'Aristote. Nous revenons encore avec Zénon de Quiton, qui a apporté la logique à l'Occident, était un noir, un nègre, s'il faut dire les choses comme ça. Et nous devons revenir à ce qui est notre, à nous voir avec notre prisme. Donc il faut arrêter avec la projection Mercator. On va l'appeler, je sais pas moi, projection Imhotep ou projection Kemit ou je sais pas. Mais du moins, avec des noms qui nous sont propres, avec une vision qui nous sont propres, avec des cartes qui seront dans les écoles et dans les départements et dans les élites africaines, dans les centres de recherche africains. Car même nos armées, car nous parlons stratégie ici, nos armées utilisent des cartes Mercator. Ça n'a pas de sens. Il faut utiliser des cartes avec des projections qui sont les nôtres. Bien que je l'ai dit que une sphère, la mettre en un plan, a toujours des erreurs, mais du moins nous savons au moins qu'il y a des dimensions beaucoup plus respectable que nous pouvons utiliser et ne pas nous mettre dans un prisme purement occidental. Nous pouvons avoir un autre prisme et de voir la terre comme les anciens se la représentaient, où l'Afrique du Sud était au contraire l'Afrique du Nord. Donc nous voyons qu'il y a ce mépris dans la façon dont l'Afrique est vue aujourd'hui, qu'il n'y a pas vraiment intérêt de collaborer, car maintenant beaucoup de reportages sortent au grand jour avec tout un tas d'opérations qui ont été faites en Afrique, que ce soit par des ONG, que ce soit par des services secrets, que ce soit par des groupes pharmaceutiques, par des opérations de vaccins qui n'étaient que des opérations pour stériliser, ce qui s'est fait par exemple avec les Éthiopiens. Ils ont été victimes de paralysie, par exemple, lorsqu'ils ont émigré au Moyen-Orient. Jeune Afrique en a parlé, ça a été couvert. Et en Afrique, il y a eu des opérations comme ça où les personnes n'ont pas été indemnisées, où ils ont eu des essais de vaccins ont été faits et cela a tourné complètement en un désastre. Et tous ces anciens dossiers sortent de personnes qui sont allées en Afrique pour propager le sida, pour propager des maladies, des faux essais cliniques qui ont été faits pour propager certaines maladies infectieuses. Donc tous ces dossiers sortent au grand jour dans ce moment d'incertitude dans lequel nous sommes et où les Africains, livrés un peu à eux-mêmes, sont encore non seulement doivent faire face à cette terrible pandémie du coronavirus dont nous avons parlé dans nos émissions précédentes, que je vous invite à écouter, c'est très passionnant. Non seulement ils sont livrés à ça, au confinement, à tout ce que ça entraîne, mais aussi voilà, à ce matraquage médiatique où le vrai et le faux sont mélangés avec tous ces fake news que l'on a, et où surtout des paroles très très dures, très négrophobes sont proférées à longueur de journée sur leurs réseaux sociaux afin de les dénigrer, de les prendre sans respect ni dignité. Ici, nous ne sommes pas là pour en pleurer, mais bien au contraire, nous sommes ici pour réfléchir sur les choses. Nous avons dit que sera le monde qu'était le monde en 2020. Nous avons dit encore, je répète, que la CIA, par exemple, a fait des projections en 2035. Pour certains, il y aura une surpopulation. Pour d'autres, il y aura plutôt une population qui va stagner, qui va se stabiliser. En tout cas, dans le rapport de la CIA, c'est plutôt une stabilisation. Dans d'autres rapports, d'autres personnes, c'est plutôt une surpopulation qu'il faut absolument régler. Comment ? Eux seuls, apparemment, savent. Mais apparemment, tout le monde s'est déjà fait une idée sur ce qui se passe ou se trame derrière certains bureaux. Mais nous voulons plutôt, au lieu d'alimenter la polémique sur ces sujets-là, nous voulons plutôt avoir la réponse de l'Afrique, la réponse des pays kémites, à savoir, en 2020 avant Jésus-Christ, quel était le monde à cette époque. Comme je l'ai dit, le monde sortait d'une crise aussi. Le monde sortait d'une crise écologique, économique, mais grâce à un homme, grâce à un groupe de personnes, la crise a pu être évitée, a pu être traversée, et la guerre même qui s'est produite à ce moment-là a pu être gagnée. Qui était le pharaon à la tête du pays qu'on appelle la Taméri, c'est-à-dire la bien-aimée? Nous rappelons que Méri, ça signifie la Ou, ou c'est le symbole de la Ou, et ce symbole de la Ou, c'est le même symbole que l'on retrouve quand on parle de Congo, hein, ça renvoie à Taméri, à la bien-aimée, bien que nous rappelons et nous insistons que le royaume Congo est beaucoup plus tardif que l'ancienne Égypte. Mais cependant, les langues, comme les langues Congo, apparemment, sont beaucoup plus anciennes dans leur constitution grammaticale lorsqu'on s'approche aux travaux de Jean-Pierre Mboli. Alors, il y a souvent des confusions là-dessus, dans la toile, où on veut dire, voilà, le mot Congo, il est plus ancien, ceci, cela. Attention, les peuples ont émigré vers ces zones, par exemple le Congo actuel, ont émigré un peu tardivement, mais nous rappelons que c'est dans la zone du Congo actuel, hein, dans ses dimensions actuelles, que nous avons par exemple l'os d'Ishango au niveau de l'est Alors, quand nous regardons au niveau de l'extrême ouest du Congo démocratique actuel, bon, apparemment là, il faut encore d'autres recherches pour nous montrer qu'il y avait des populations établies là, mais pas encore, la population semble s'être établie là beaucoup plus tardivement. Mais au niveau des dimensions actuelles, quand on doit regarder la région de l'est du Congo, comme le Kivu par exemple, il y a là, dans l'est du Congo, ce qu'on appelle l'os d'Ishango, qui date de moins 20 000 ans et peut-être encore plus, et qui montre déjà des populations là. Ce sont ces populations qui ont eu à monter pour s'établir dans la région qu'on appelait plus tard la Nubie, mais qui, nous rappelons le mot Nubie, est un nom que, je pense, les Romains avaient donné, mais c'est plutôt utiliser les termes indigènes qui étaient à l'époque, donc le royaume de Kouch qui a commencé, qui a donné naissance au royaume d'Égypte, car comme Diodore de Sicile le dit, que Kouch, qui sont donc les anciens Éthiopiens, non pas ceux d'Addis Abeba, mais Éthiopiens qui signifie simplement noir, c'est-à-dire les populations du sud qui sont les Kouchites, qui donneront donc naissance à l'Égypte, car Diodore de Sicile, comme je l'ai dit, a dit que l'Égypte est une colonie des Éthiopiens, des Kouchites, du peuple de Kouch. Donc c'est du fin fond de l'Afrique, donc du pays de Punt, là, l'Afrique centrale, que les populations viennent. Voilà pourquoi les gens ont tendance à dire « Ah, le Congo, c'est plus ancien !» Non. Ces régions-là, de l'est du Congo actuel, dans la dimension actuelle, oui, étaient peuplées, on a des peuplements là, mais au niveau de l'ouest, ça sera peuplé plus tard par les vagues dites bantoues qui vont se propager vers ces régions-là. Donc, nous disions, qui est le pharaon à cette époque-là? Le titre de notre émission s'intitule « Mentuhotep II, sa vie, son pouvoir ».